Je commence par vous citer quelque chose sur le jazz, car le jazz est en quelque sorte le précurseur du rock. L'auteur David Thame dit: en contraste à notre attitude généralement indifférente face à la musique dissonante de nos jours, les gens des années 1920 avaient tendance à être très conscients du danger que le jazz était pour la société. Comme la musique s'étendait à une minorité dans les bas échelons de la société, les réactions opposantes étaient fortes au début. Les gens de classe moyenne moralisés jugeaient cette musique comme une œuvre du diable. Dans son « Jazz a History », même l'écrivain pro-jazz Franck Thiroux admet: le jazz est devenu un symbole du crime, de faiblesse d'esprit, d'insanité et de sexe, et était sous attaque constante de la presse à partir des années 1920 et par la suite. C'est ironique que nous préservons, étudions et apprécions une musique aujourd'hui qui était sentie comme insidieuse, lascive seulement hier. Et c'est vrai, c'est ironique pour vrai. À ce moment, j'aimerais bien prendre une parenthèse pour vous demander une question. Comment ça se fait que maintenant le jazz et le rock tout autour de nous est accepté, sans question, tandis que tous deux, le jazz et le rock, à leur début, ont été très contestés? Peut-être faut-il en arriver à la conclusion que nous sommes insensibles, devenus insensibles comme de la peau rugueuse qui, une fois qu'on passe beaucoup de choses sur la peau, elle devient rugueuse, elle est moins sensible. Peut-être est-ce que notre société est devenue insensible à des musiques qui sont, ou qui l'étaient tout du moins dans le temps, clairement et nettement mauvaises. Maintenant, à propos du rock, Robert Pickle, auteur du livre You Say You Want a Revolution, Rock Music in American Culture. C'est, vous dites que vous voulez une révolution, la musique rock dans la culture américaine. A dit à propos des origines du rock: le terme rock and roll n'était pas comme il était originellement intentionné, ou plutôt réclamé, comme une référence à la danse. Au contraire, comme la plupart de nous savaient, plus ou moins, il avait affaire avec le sexe, simplement, crûment et ouvertement. Son lien avec la danse n'était en réalité qu'une mince tentative voilée de le rendre plus acceptable à l'Américain blanc dans le milieu des années 50. Mike Quattro, un producteur bien connu de rock, a dit lui-même: « Le rock te motive intérieurement. Ça te donne un sentiment sensuel. Une fille peut être allumée par la musique, allumée sexuellement. Ça permet à ses inhibitions de s'exprimer. Une fille peut réaliser sa propre sexualité à travers la musique. » Et ça, c'était une personne qui est en faveur, bien entendu. Little Richard, un ancien célèbre chanteur rock des premières années du rock, a confessé aussi, lui, par la grâce de Dieu, a été converti par la suite: « J'ai utilisé toutes sortes de drogues et j'avais toutes sortes d'orgies. Le rock and roll ne glorifie pas Dieu. Vous ne pouvez boire la coupe de Dieu et celui des démons en même temps. J'étais un des pionniers de cette musique. Je sais de quoi sont faites les pierres, puisque je les ai construites. » Warren Schatz, un exécutif de la compagnie RCA Records, défend les tendances musicales d'aujourd'hui en disant: « Ces chanteurs n'ont pas inventé le sexe. Ça fait partie de la vie. Les chanteurs ne font qu'exprimer ce que les gens font autour de nous. » Eh bien, le régisseur des Rolling Stones aussi a dit: « La musique pop est sexe. Et tu as besoin de les frapper avec ça, il parlait des jeunes, en pleine face. » Et c'est direct. Le Jefferson Airplane l'a dit comme ça: « La scène est notre lit et l'audience est notre partenaire. Nous ne divertissons pas, nous faisons l'amour. » Et j'ai de la misère à les lire parce que c'est tellement cru et sale comme parole. Le star de musique rock John Holtz a dit dans le Circus Magazine: le rock and roll est 99% sexe. Frank Zappa de Mothers of Invention, un autre grand chanteur rock, a dit: le music rock est sexe. Le grand beat s'identifie avec les rythmes du corps. Ou il pourrait dire, le grand beat parle au rythme du corps. Et ainsi de suite, je pourrais continuer des journées entières. Et ainsi, les chanteurs de ce genre de musique eux-mêmes vont reconnaître l'effet physique sexuel de la musique rock. Ils ne sont pas seuls. Alfred Aronowitz, ancien critique de musique pour le New York Post, a déclaré « Si les autorités savaient ce que la musique d'aujourd'hui est en train de dire, non ce que les paroles disent, mais la musique elle-même, alors ils ne baisseraient pas seulement le pouce sur elle, ils l'interdiraient, ils détruiraient tous les disques, ils arrêteraient quiconque essaierait d'en jouer. » Les docteurs aussi reconnaissent cette corruption physique due à ce genre de musique dont le rythme est dégradant. Docteur Bernard Seibold, un expert en pédagogie, ayant observé un concert des Beatles dans l'État de Washington, il a dit « Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites sur les raisons de l'attirance qu'éprouvent les jeunes pour les Beatles. La musique est forte, primitive, insistante, fortement rythmée et libère dans une manière subtile les rarement contrôlées toutes nouvelles impulsions physiques des adolescents. » Docteur Masterson, chef d'une clinique pour adolescents, a dit « La musique, il parlait de musique rock, est dans un sens une sorte d'expression sexuelle. Le beat a une implication sexuelle véritable. » Aussi, en parcourant l'encyclopédie complète des thérapies naturelles, j'ai trouvé intéressant leur section sur la musique. La musique peut aussi avoir des avantages thérapeutiques sur les criminels violents, si l'on en croit le docteur Chenny Roy, le directeur médical du Regional Psychiatric Center d'Abbotsford en Colombie-Britannique, un hôpital psychiatrique de 138 lits à l'intention des détenus. Le programme musical en vigueur est d'une heure par mardi après-midi. Les observations du docteur Roy viennent confirmer le fait qu'en raison de l'utilisation commerciale qu'on a fait de nos jours, la musique populaire a perdu cette qualité spirituelle que seule la musique classique a conservée. Celui-ci rapporte que lors d'un concert, les détenus avaient écouté calmement et avec une grande attention tous les morceaux de musique classique joués. Cependant, lors d'un autre concert, mais de rock cette fois, ceux-ci se sont mis à chahuter à tel point qu'il a fallu mettre fin à la séance. Quoi de neuf à cela? La musique classique possédait quelque chose qui manquait dans la vie de ces hommes. Elle semblait les transporter en un endroit calme et propice à l'introspection. Par contre, la musique populaire moderne les ramenait dans leur monde violent. Mais maintenant, d'une manière plus scientifique, y a-t-il moyen d'expliquer ce phénomène? Le docteur John Diamond, un physicien de New York, a découvert que le rythme anapeste arrêté, anapeste qui est à dire, vous pourrez le voir à la fin des notes, là, augmente le stress et la colère, réduit la production, augmente l'hyperactivité et affaiblit la force musculaire. Dr. Diamond a trouvé que le rythme rock anapeste est l'exact opposé du rythme cardiaque et artériel. Et comme nous l'avons déjà cité, les rythmes du jazz et de rock ont été démontrés expérimentalement comme causant au battement du cœur la perte de son battement parfait. C'est justement cette anomalie au niveau physique qui crée cette action ou sentiment charnel, rebelle, sensuel, voire souvent sexuel. Mais d'où vient l'incroyable attrait de cette musique sur nous, puisque c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est attirant. En fait, c'est parce que son action est destructrice sur le plan physique qu'elle produit une sorte d'assujettissement ou esclavage, de dépendance subtile mais forte. Et cela, c'est vrai que c'est subtil parce qu'on dirait qu'on va aimer la musique, tandis qu'en fait, ben, on va l'aimer parce qu'elle nous détruit dans un sens. Elle crée un besoin en nous d'en entendre plus et elle nous accroche. C'est un peu comme la drogue, laissant sur son audience un sentiment apparent d'aimer ça et d'en vouloir toujours plus, souvent même une musique de plus en plus rythmée. C'est ce qui explique que de nombreux chanteurs rock sont des idoles pour des milliers de jeunes. Ils sont accrochés à leur musique et à leur chanteur comme un alcoolique à sa bière. Et ça, ils ne sont pas rares, ces jeunes-là. En fait, l'action de la musique sur une personne est exactement comme celle d'une drogue. À la longue, elle détruit et rend esclave. Il faut peut-être souligner que ça se fait plutôt à la longue. Une personne entendant 30 secondes de rock en allant magasiner ne sera pas affectée comme celui qui fume un joint pour 30 secondes. Mais il faut réaliser et il faut insister que la puissance et les dangers de la musique sont bien plus subtils que de la drogue et donc doivent être pris très au sérieux. Puisque souvent on a tendance à dire, oh, si ça ne m'affecte pas en 30 secondes, ce n'est pas si grave. Mais les 30 secondes s'accumulent vite et cela, on l'oublie. J'aimerais s'il y en a, 30 secondes, il faudrait peut-être que je dise 30 secondes, c'est pas assez pour faire tuer une plante, là. J'aimerais signaler ici que j'ai parlé extensivement ci-haut du rock, car c'est de loin la musique la plus fréquemment entendue et utilisée partout à la télévision, dans les publicités, dans les radios, dans les restaurants, dans les centres d'achat, etc. Mais bien d'autres styles sont aussi caractérisés par cette corruption ou perversion produite au niveau du rythme. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène à voir quelques différentes manières employées pour corrompre un bon rythme. Nous avons en premier lieu ce qu'on appelle en anglais the driving beat, que je traduirai battement incessant. Ce genre de dégradation rythmique est le pire où on peut en arriver. C'est vraiment l'ultime. En général, le hard rock et le heavy metal ont ce genre de rythme tout au long de leur show. C'est tout simplement une musique qui n'a quasiment pas de mélodie. Tout ce qu'on entend est le rythme comme un marteau qui frappe sans cesse sur la tête. C'est des coups de marteau, littéralement. Dans votre cahier d'illustration, vous voyez que le 1, 2, 3, 4 ne change pas. C'est chaque emphase, chaque battement qui est mis en emphase, ce qui donne vraiment trop de poids au rythme. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Disons que je n'aurais en masse si je voulais vous donner un exemple à la radio, mais je ne voulais pas vous en donner puisque je suis certain que vous n'aurez pas de misère à penser à quelle musique je parle. Aussi, peut-être mentionner que quand on arrive à ce genre de musique, c'est beaucoup dans le satanisme. Beaucoup de groupes heavy metal et hard rock sont sataniques et ils ne le cachent pas. Certains d'autres le sont plus subtilement, mais c'est à ce niveau-là surtout que se font les groupes sataniques. Une deuxième manière est ce qu'on appelle the backbeat ou battement inversé. C'est une inversion régulière des emphases rythmiques. On a vu comment l'emphase normale d'un rythme est toujours sur le premier temps avec l'emphase secondaire sur le troisième. 1, 2, 3, 4. Ici, l'emphase se fait sur le deuxième ou quatrième temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aussi, une manière différente de le faire, la syncope, parce qu'ici c'est à proprement parler une syncope, une manière différente de la faire que de la classique, mais d'une musique classique, et de le rendre superficiel, ou disons plastique. Dans la classique, une syncope se fait au niveau de la mélodie. Dans le rock, ça se fait au niveau du rythme, avec un battement, avec un drum. Et ça accentue encore plus la syncope, chose qu'il n'y a pas vraiment avec la syncope dans le classique. Voici un exemple de backbeat. Que le deuxième temps est bien plus fort que le premier. 1, 2, 3, 4, 1. dire que même si cet exemple, même si ça ne serait pas du backbeat, le rythme est tellement mis en emphase qu'il prend le dessus de la mélodie. Un autre exemple maintenant, tout ça dans le but que vous puissiez identifier le backbeat dans la musique que vous entendez autour de vous, parce que je sais que vous en entendez à longueur de journée, ce n'est pas pour vous en donner plus que vous avez besoin, c'est pour vous aider à ce que vous puissiez l'identifier. Encore l'emphase primaire est sur le deuxième ton et cela d'une manière constante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un troisième et dernier exemple, celui-là est bien plus subtil que les autres, mais j'aimerais le donner quand même pour que vous puissiez voir à quel point on peut le voir, on peut avoir une musique très douce et quand même empruntée. Cet élément qui va rajouter un petit piquant charnel, disons, pour entre guillemets. Alors, j'espère que maintenant vous puissiez prendre une musique et analyser le rythme, voir si l'emphase rythmique est bien, si c'est si c'est du backbeat ou si c'est du rythme normal. Une troisième manière de dévier ces règlements rythmiques de 1, 2, 3, 4 est de simplement varier la deuxième. Ça s'appelle du miss beat, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, je l'ai lu quelque part et il ne l'avait pas donné un nom expressément, mais c'est juste en quelque sorte une variation de la deuxième. Au lieu de mettre un petit premier temps et un grand deuxième, il enlève complètement le premier battement, ce qui donne au lieu de 1, 2, 3, 4, on a du 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ce qui met encore plus l'emphase sur le deuxième et ce qui est encore plus dégradant. Je n'ai pas d'exemple plus que ce n'est qu'une variation. La quatrième manière de dévier les règles naturelles de la musique est le break beat ou le battement cassé ou fracassé. Ça consiste à jouer entre les temps rythmiques normaux, à tricher sur les absolus de la musique. Au lieu d'avoir un 1, 2, 3, 4, on a un 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. C'est tricher sur le temps. C'est en général par quoi commence toute déviation rythmique dans une musique. Quand le jazz a commencé, c'est ce genre de rythme qui a été adopté. Aussi, à ce niveau, de tricher sur le temps, j'aimerais vous faire écouter un morceau de classique. Oui, du classique, mais pas du bon classique. Du classique qui triche sur les règles de temps. Cette musique a été écrite par Debussy, qui a écrit sa musique dans le but de justement de ne pas suivre la forme normale, mais selon ce que lui s'est tenté de faire. Alors je vous mets au défi, essayez de calculer le temps, de compter un temps régulier, 1, 2, 3, 4. Il a composé ce morceau avec le but de ne pas pouvoir permettre aux gens de trouver un temps. Il l'a écrit avec cela en tête. Et d'ailleurs, venez me voir, téléphonez-moi, écrivez-moi si vous arrivez à trouver un temps régulier à ce morceau. Debussy a introduit cette musique dans la société au moment où il y avait comme une rébellion générale contre, une rébellion qui commençait à devenir générale contre les absolus de la nature. Une philosophie est née de ce temps-là, je veux être libre, sans contrainte. et rebelle par le fait même. Et quand le jazz est venu, les absolus de la musique ont été jetés par la fenêtre et foulés aux pieds. Et voici un exemple de jazz. Vous verrez qu'il n'y a aucun absolu, tout est relatif, tout est ça monte, ça descend, mais tout en slide, tout en glissant sur les tons. Alors il glisse sur les tons, il triche sur le temps, et c'est vraiment relatif. Il n'y a pas d'absolu, on fait ce qu'on veut. C'est ce que la musique est en train de dire. D'ailleurs, selon Frank Garlock, au moment où l'on commençait à voir apparaître aux États-Unis ce genre de musique relatif, le relativisme a commencé à être populaire dans le monde théologique aussi. Alors, un rythme breakbeat, qu'est-ce que c'est? Alors, en voici un exemple. Je vais commencer par vous compter le rythme normal, suivant cet exemple, et par la suite, le rythme de leur battement de rythme. Alors, le voici. Alors, je pense que vous avez pu voir comment c'est juste décaler un petit peu le deuxième rythme. Le deuxième battement, on le décale un petit peu, soit en arrière d'habitude. Je vais vous faire jouer un autre exemple qui est différent et ça va vous aider à les reconnaître mieux, ces fameux breakbeats-là. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous avez vu le décalage complet? Je vais vous le faire réjouir. Je pense comme exemple. Alors, ce sont un breakbeat. Le breakbeat en général est dans le rock de plus soft, de plus doux, qui est plus facile à écouter. C'est un chanteur rock qui s'est converti par la suite m'a dit que le backbeat en général était utilisé dans les discos pour faire danser le monde, pour faire bouger. Tandis que le breakbeat, c'était plus dans les bars pour faire boire, beaucoup plus pour faire boire le monde qui est dans les bars. Lui, il était sur une bande musicale et les personnes, dépendamment où est-ce qu'il allait pour un disco dans les bars, on lui disait absolument « joue telle sorte de musique, joue telle sorte de musique ». Et en général, c'est ça. Dans les bars, c'était le breakbeat et dans les discos, c'était le backbeat. Pour ne pas vous laisser avec un goût amer de backbeat, de breakbeat, je vais vous faire jouer un morceau qui est un bon rythme. Et je vais le compter pour vous, c'est un rythme de trois temps, trois battements. Et donc, juste pour vous rappeler, c'est quoi un bon rythme? Thank you. Je veux quand même dire que le batterie, c'est un très bon instrument et il a une très bonne utilisation. Il est nécessaire. Juste deux extraits, de très courts extraits pour vous dire comment une batterie peut être très bien utilisée. Il y a plus en plus de musiques de nos jours qui n'ont pas de bonne conclusion. La chose qui est populaire est de répéter à la fin de le refrain 3-4 fois et de finir le chant en baissant le volume graduellement jusqu'à zéro. Les chanteurs aiment répéter souvent une petite phrase « catchy » entre guillemets, qui n'a pas de sens ou qui, quand elle en a, qui est superficielle de sens. Cette technique révèle la médiocrité d'une musique. Finalement, beaucoup de chants contemporains sont mal interprétés, ou disons interprétés sensuellement ou non sobrement. Il y a le mouvement du chanteur qui peut être suggestif, là je n'ai pas d'exemple bien entendu. Il y a aussi la forte respiration qui suggère que le chanteur ou la chanteuse est très proche de vous, à l'intérieur même de votre zone personnelle. Ça se produit quand le chanteur tient le micro trop près de vous ou quand il respire trop fort. Souvent, ces chanteurs qui font cela chantent aussi avec leur voix de gorge et qui non pas avec leur voix de tête. Cela produit une impression très sensuelle. Une autre façon de mal interpréter un chant est le swing on the pitches, vacille entre les tons. Cette façon de chanter est très populaire et très répandue. Ça consiste à ne pas garder la note pure quand on chante et de s'amuser à vaciller entre les tons. Voici quelques exemples parce que ça c'est difficile à définir et le meilleur exemple pour que je puisse bien vous l'expliquer c'est de vous le faire écouter. Alors oui, c'est chanter, vaciller sur les tons. La grande séduction. Si vous avez une Bible, je vous inviterai à lire tout le chapitre 32 de Exode. Et pour ce type matériel, nous allons lire seulement les versets 4 à 6. C'est dans le contexte de Aaron qui faisait un veau d'or. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ce passage est très intéressant. Nous pouvons observer trois caractéristiques de ce peuple. La première qu'on remarque est que dans leur pensée, ils adoraient encore l'Éternel. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils avaient le bon langage théologique. Ensuite, remarquons comment ils baignaient dans le divertissement. Puis ils se levèrent pour se divertir. Plus loin, lisons au verset 17 et 18, « Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Une troisième caractéristique que nous pouvons observer chez ce peuple rebelle est que leur musique a perdu sa pureté musicale. Ce peuple a perdu la pureté musicale de leur musique. C'était à peine si c'était reconnaissable que c'était de la musique, mais ça en était. Aujourd'hui, nous retrouvons un mouvement dont les caractéristiques ressemblent étrangement à celles de ce peuple de Dieu, qui était tombé dans la fornication spirituelle. Je me réfère aux chanteurs de rock chrétien pour leur musique. Ils ont, entre guillemets, les bonnes paroles. Leur musique est en grande partie divertissante et ils ne s'en cachent pas. Finalement, leur musique a perdu cette qualité pure que devrait avoir la musique. Tout comme en Exode 32, il y a un grand mélange du pur avec l'impur, de mensonge avec la vérité, il y a ce qu'on appelle la fornication spirituelle. Alors la scène d'Exode 32 est répétée aujourd'hui. Romains 12, 2 justement enseigne que on doit se renouveler l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et cela, il nous l'a dit après nous avoir dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Vous voyez, le discernement spirituel est en relation directe avec la séparation du monde d'avec Dieu. La Bible a longuement parlé ou alerté les chrétiens de la séduction qui règne dans le monde. Éphésiens 4, 14, il parle de la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, 21, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Apocalypse 18, 23, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Mais d'où est venue cette grande séduction? Premièrement, j'aimerais dire que ce n'est pas la première fois qu'on voit qu'une génération de chrétiens a été séduite. Pour notre situation présente, d'où est venue cette séduction? Je devrais simplement répondre du mouvement qui est né sur Azusa Street en Californie en 1901, le mouvement pentecôtiste. Ce mouvement est né dans les compromis et dans la séduction de croire que les expériences signifient plus que la parole. Tout de suite, au début, les pentecôtistes ont sauté sur le jazz parce que c'était une musique beaucoup plus émotive et d'expérience que les cantiques normaux. Howard Goss, lui-même, un fondateur du mouvement pentecôtiste, a dit « Sans lui, le jazz, le mouvement pentecôtiste n'aurait jamais pu atteindre aussi vite les cœurs des hommes et des femmes comme il a fait. » Quand le rock est sorti en 1952, ils ont saisi l'occasion et ont formé, dans les années 60, ce mouvement qu'on appelle « Contemporary Christian Music » ou « Musique chrétienne contemporaine » pour remplacer le nom de « rock chrétien » qui avait une mauvaise connotation. Leur but était toujours d'atteindre les jeunes avec leur musique. Satan s'est servi de la musique pentecôtiste pour confondre et abattre les évangéliques, comme vous pouvez le voir dans l'illustration. Du nombre des évangéliques qui rejetteraient complètement les doctrines et la pratique des pentecôtistes, nombreux sont ceux qui acceptent leur musique et leur chant et leurs chanteurs. Il y a énormément d'écuménisme dans le cercle de la musique. D'ailleurs, Scott Pelking, qui écrit pour la défense de la musique des migrants, il a dit « Comme un résultat, des personnes de tous les genres de foi se sentent confortables en assistant à ces concerts. Ils savent qu'ils vont voir un bon spectacle qui promouvoit des valeurs positives et qu'ils n'auront pas à s'asseoir pour un sermon. » Alors, qui fait partie de ce mouvement chrétien contemporain, de musique chrétienne contemporaine? Il y a un magazine pour cet effet et elle nous donne la réponse. Amy Grant, Michael W. Smith, Michael Card, Stryper, Petra, Steve Camp, David Meese, Twyla Pierce, Sandy Petty, John Michael Talbot, Keith Green, Steve Green, Glad, Bill Gaither Trio, etc. Et il y en a bien d'autres. Ça, c'est juste une liste non exhaustive. Mais où est la philosophie de tels chanteurs? Je cite une en exemple, non pas que tous ont la même philosophie, mais là où est-ce que ça l'amène? C'est Amy Grant qui dit « La seule chose déplorable est qu'artistiquement parlant, nous, dans la musique chrétienne, n'exigeons pas grand-chose l'un de l'autre. Moi, j'ai produit 9 projets. On penserait que c'est très créatif ou que j'ai vraiment accompli quelque chose. Mais ce que je produis est des années en arrière de ce que les jeunes sont en train d'écouter. Mes nièces et neveux, le plus âgé à 7 ans et le plus jeune en a 2, aiment Cyndi Lauper et Bruce Springsteen. Ils aiment Jésus, mais leurs amis n'écoutent pas de Amy Grant. Ce n'est pas comme ils n'en entendent pas. C'est parce que musicalement, je ne suis pas au même niveau que beaucoup de choses qui sont populaires. Je vais vraiment essayer de pourvoir de la musique qui va créer des liens communs. » Plus loin, elle dit encore, « Et alors, je me sens attrapé au milieu d'une situation qui dit à mon groupe loyal, pour qui j'ai l'habitude de chanter, « Je ne pars pas, nous ne nous déplaçons même pas, nous ne faisons qu'enlever les briques. Tout ce que nous faisons est de défaire le mur. Et n'ayez pas peur de ce qui est de l'autre côté. Et d'ailleurs, elle vient juste d'être la plus populaire en mai aux États-Unis, la plus populaire de même l'industrie, dans l'industrie séculière, elle était la plus populaire. Parce qu'elle était top, elle était en position numéro 1 sur le top 10 USA. Une autre citation d'immigrants que j'ai trouvé intéressant dévoile sa philosophie très lousse en standard dans le domaine moral. Il me semble, ça c'est immigrant qui parle, il me semble que les personnes qui sont les plus intransigeantes sur le sexe primarital ont expérimenté une certaine douleur dans leur propre vie. Comme les gens qui disent absolument non au rock'n'roll. Les chances sont qu'ils ont une tristesse dans le passé. Alors, on voit que c'est vraiment très, très large. En effet, quoiqu'elle-même encourage la virginité avant le mariage, ne condamne pas du tout ceux qui ne peuvent pas atteindre jusqu'à leur mariage. Mais pourquoi est-ce que cette nouvelle musique est en train de ravager les églises, même évangéliques? Dans l'illustration de la page suivante, dans votre petit livret, nous voyons Satan qui souffle des mensonges ou des excuses à l'arbre représentant les évangéliques. Ce sont quatre mauvaises philosophies que les gens ont pour adopter par convenance ou par naïveté pour justifier leur musique plus ou moins mondaine chrétienne. Ou plus, leur musique chrétienne plus ou moins mondaine. La musique est amorale. Alors, nous avons vu toutes les évidences et encore plus les versets de la Bible qui nous démontrent fortement le contraire. La musique pour évangéliser? Non. Non, on a vu cela aussi, que la musique est pour Dieu. La folie de la prédication est pour l'homme inconverti. Ce n'est pas si pire. Cela, en disant cela, une personne est en train d'avouer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la musique. Il est en train d'impliquer qu'il y a quelque chose de mal pour qu'il dise « ce n'est pas si pire ». Mais encore plus grave, il est en train de dire que ce petit quelque chose de mal n'est pas grave. Quoi donc? Christ n'a-t-il pas dit qu'un peu de levain ferait lever toute la pâte? Dieu nous a commandé d'être purs et irréprochables, comme nous avons déjà vu. Et ça me ressemble bien gros à un compromis de dire « ce n'est pas si pire ». Peut-être est-ce vrai que certaines musiques ne sont pas aussi pires que le heavy metal, mais est-ce que cela justifie-t-il telle qu'elle soit un peu mal? Finalement, on entend souvent « il ne faut pas exagérer ». Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne faut pas sous-exagérer non plus. Il ne faut pas se faire avoir, se faire tromper par toutes les séductions rusées du monde. Ne prenons pas à la légère quelque chose qui a fait tomber toutes les grandes civilisations passées et qui est en train d'achever le nôtre en ce moment. Il y en aurait bien d'autres mauvaises philosophies, mais celles-là sont les principales. Que faire maintenant? Se demandent beaucoup de gens. Quelle est la solution? Et c'est vrai que c'est difficile à trouver une solution devant un si grave problème. Nous vivons déjà dans une société qui a capitulé à la mauvaise musique. Comme on a dit, on est devenu insensible et on ne le reconnaît même plus comme de la mauvaise musique. Nous en sommes infectés partout autour de nous. Alors que faire? Capituler aussi? Et croire que ça ne nous affecte pas si on est contre? Certainement, il est trop tard pour changer la société. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre but. Mais il n'est pas trop tard pour former nos membres de nos églises, les membres de nos familles, notre jeunesse et même nous former nous-mêmes, afin qu'on soit rempli de la parole de Dieu et de l'Esprit, nous entretenant avec des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels. Alors je tiens à faire quelques suggestions pour ceux qui, devant tout cela, se demandent, voyons, il me semble que, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, c'est une bonne question. Premièrement, quelques suggestions pour... dans un contexte d'église locale. Prêchez sur la musique, n'évitez pas le sujet. Organisez des conférences sur la musique et même des concerts de bons artistes chrétiens qui sont solides dans leurs convictions. Ça va mettre le ton dans votre église. Aussi, assurez-vous que les numéros spéciaux
sont de bonnes musiques et bien interprétées pour ne pas être embarrassé et donner un mauvais exemple à l'assemblée. Aussi, pensez à l'importance d'avoir un bon directeur de musique qui va établir un bon programme musical de l'église. Quelques suggestions pour un contexte familial. Si vous êtes parent et vous demandez comment élever vos enfants dans la bonne voie, rappelez-vous que votre musique à la maison est probablement la chose qui va élever le plus vos enfants. Développez les goûts musicaux de vos enfants en les introduisant à la belle musique. Peut-être mon exemple personnel, mon expérience personnelle pourrait vous encourager. Il y a quelques années, mes parents m'ont absolument défendu d'écouter une musique que moi j'aimais bien. Ils m'ont dit que le rock était mal pour moi. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi et je leur demandais d'en écouter pareil. Mais je leur remercie maintenant de ce qu'ils m'ont, obligé à ne pas me souiller avec une telle musique de laquelle moi je ne comprenais aucunement dans ce temps-là. Donc je tiens à dédier cet ouvrage à mes parents que j'aime pour ce qu'ils ont fait et pour m'avoir élevé dans la foi et dans la pratique selon la parole. Quelques conseils personnels à tous. Premièrement, réaliser que 90% de la musique qui joue autour de nous n'est pas de la belle musique. Aussi, 90% de la musique chrétienne n'est pas de la belle musique. Mais qu'il y a beaucoup de belle musique autour de nous si l'on prend la peine de la chercher. C'est comme la graine de sable. Peut-être il va se sentir restreint au début, mais en passant par l'étape transitoire, après, il découvre qu'il y a tout un autre monde après. Et bien sûr, Dieu nous a donné les goûts et les préférences, mais il nous a aussi donné les principes pour qu'on puisse diriger nos goûts et nos préférences selon sa volonté. Ainsi, marchez par principe. Donnez une bonne direction à vos goûts. Mon dernier conseil est de mettre en pratique 1 Thessaloniciens 5:23. Examinez toutes choses, abstenez-vous de toute espèce de mal, retenez ce qui est bon.